Radio Prague, les informations. Bonjour, une messe a été célébrée en mémoire des 7 victimes de l'accident de train de Studenka. Environ 300 extrémistes ont participé à un rassemblement néo-nazi à Hradec Králové. Et enfin, en sport, aux Jeux Olympiques de Pékin, les Tchèques ont remporté une 5e médaille, cette fois en aviron. Environ 200 personnes ont pris part à la messe célébrée samedi matin dans l'église de Studenka, en Moravie du Nord, en mémoire des 7 victimes de l'accident de train de la semaine dernière. L'effondrement d'un pont en reconstruction dans la commune est à l'origine de l'accident meurtrier du train express qui reliait Cracovie dans le sud de la Pologne à Prague. Lors de la messe, l'évêque d'Ostrava et d'Opava, František Lobkowicz, a demandé à l'assemblée de prier pour les victimes, mais aussi de trouver un espace pour pardonner aux responsables de l'accident ferroviaire considéré comme le plus grave de ces 15 dernières années en République tchèque. Environ 300 personnes ont pris part à un rassemblement néo-nazi samedi après-midi à Hradec Králové en Bohême de l'Est. Le rassemblement a été organisé par le Parti ouvrier, une formation d'extrême droite. Initialement, un meeting politique et un concert devaient se tenir dans le cinéma en plein air de la ville. Vendredi, la mairie a toutefois résilié le contrat de location afin d'empêcher le rassemblement. 150 policiers ont été mobilisés mais n'ont pas eu à intervenir, aucun incident n'ayant été relevé. En sport, la République tchèque a remporté samedi sa 5e médaille aux Jeux olympiques de Pékin. En aviron, Andrzej Sinek s'est classé 2e de l'épreuve de skiff, remporté avec 8 dixièmes de seconde d'avance par le Norvégien Olaf Tufte. Toujours en aviron, Miroslava Knapkova a terminé 5e de la finale du skiff féminin, tout comme le 4 sans barreur chez les hommes. En sport automobile, c'est ce dimanche que se disputera le Grand Prix moto de République tchèque, comptant pour le championnat du monde de vitesse. Sur la piste de Brno, en Moravie, c'est le champion du monde en titre australien, Casey Stoner, qui a signé le meilleur temps des qualifications et s'élancera en pole position devant l'Italien Valentino Rossi dans la catégorie reine moto Grand Prix. Deux pilotes tchèques, Lukáš Pešek et Karel Abraham, disputeront le Grand Prix dans la catégorie inférieure des 250 cm³. Ils partiront respectivement en 9e et 15e position. Culture, c'est avec le carnaval et la symphonie du Nouveau Monde et un concert de la Philharmonie tchèque donné dans la salle Dvorak du Rudolfinum que s'ouvre samedi la Prague de Dvorak. Ce nouveau festival international de musique classique dans la capitale tchèque est essentiellement consacré à l'œuvre de l'un des plus célèbres compositeurs tchèques. Jusqu'au 4 septembre, le public pourra assister à 15 concerts d'interprètes tchèques et étrangers. On passe à la météo. Après une journée de samedi très pluvieuse, c'est un temps variable qui règne sur la majeure partie du territoire dimanche, jour de la fête des Petra, selon le calendrier local. Les températures sont en légère hausse et se situent entre 19 et 23 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention.
Rencontre littéraire, Václav Richter.
La semaine dernière, nous avons présenté dans cette rubrique la première partie de l'entretien avec le metteur en scène français Jean-Denis Monory, venu à Prague avec sa troupe pour ressusciter le théâtre baroque. Sa compagnie, la Fabrique à théâtre, a donné à l'Opéra d'État la célèbre pièce de Molière, Le médecin malgré lui, spectacle qui lui a permis de déployer les fastes et les sortilèges du théâtre du grand siècle en utilisant les moyens d'expression tombés depuis longtemps dans l'oubli. La déclamation d'époque, la gestuelle baroque, le maquillage expressif et l'éclairage à la bougie ont beaucoup contribué au succès du spectacle. Voici donc la seconde partie de l'entretien avec Jean-Denis Monory, consacrée notamment aux aspects principaux du théâtre baroque et aux ambitions de ceux qui lui rendent la vie.
« Qu'est-ce que ces aspects du théâtre baroque que vous utilisez, je pense maintenant à la déclamation d'époque, à l'éclairage, à la bougie, etc., aux costumes bien sûr, ont apporté à votre production?
Ça apporte au texte de théâtre du XVIIe et du XVIIIe siècle, début XVIIIe, une puissance, une force évocatrice du mot. C'est bête à dire, mais d'abord c'est ça. C'est-à-dire qu'un mot est tellement développé dans la voix, développé, on parle comme ça. Donc forcément, l'image a le temps de venir. Le mot est une image, toujours. Même un petit mot de rien du tout. Et en plus, quand c'est en alexandrin, c'est encore plus important. Hein, puisqu'on a, on a une écriture déjà rythmique et déjà musicale. Donc on a cet aspect-là qui est tout à fait nouveau, mais qu'on a dans des pays comme le Québec, ou on a dans certains pays du sud de France, où l'accent des chantans, et tout de suite on a envie de l'écouter, et ça nous fait sourire, donc c'est très bien pour la comédie déjà. On a des exemples, des grands acteurs qui avaient l'accent du sud comme ça, ils sont absolument géniaux. Donc on a cette nouveauté, d'image, le mot apporte une image, et ensuite on a la phrase qui a de la musique, qui a les accents toniques qu'on n'a plus. Le français est assez plat, vous pouvez voir comme je parle en ce moment, assez plat, alors qu'à l'époque, dans cette diction particulière, de savante, tout le monde ne parlait pas comme ça, il y avait un vrai accent tonique comme on peut avoir en anglais quand on joue du Shakespeare. Ça, this can be no trick, the conference society won't have the truth. Ça, il suffit de dire les mots pour jouer, pour être. En français, on a perdu ça. Et quand on retrouve cette technique, il suffit de dire les mots, d'être complètement dans le texte, donc respectueux. Mais d'une manière, le verbe devient de la matière vivante et on n'a rien besoin de jouer psychologiquement parlant. Donc ça, c'est aussi une nouveauté, comment jouer du théâtre sans penser au personnage. Le personnage vient parce qu'il est tellement écrit qu'il est là. Et quand j'ai vécu 5 ans à Londres, j'ai appris en Angleterre, mes débuts étaient en Angleterre, quand on dit du Shakespeare, ça, déjà la langue est tellement bien écrite, tellement forte, ça donne déjà énormément de sentiments et de caractère.
Quel est le rôle de la musique dans votre production ?
Le rôle de la musique, d'abord, c'est dans les pièces de théâtre, souvent, à l'époque, on avait pratiquement tout le temps un début en musique, une ouverture, ou en tout cas, s'il y avait des actes, entre les actes, il y avait des moments musicaux, pour faire patienter, parce qu'il fallait rallumer les bougies, éteindre et remettre d'autres bougies. On vendait des choses dans la salle, des confitures, c'était des pâtes de coin, par exemple, du vin nouveau, et on jouait de la musique, et il y avait souvent peut-être un jongleur, ou quelqu'un qui chantait, etc. Donc ça, c'était un aspect que je voulais mettre dans toutes les pièces, même celles où il n'y a pas la musique qu'on a retrouvée écrite. Là, la particularité, l'originalité, c'est qu'il y a une musique qui a été écrite par Lully, que j'ai retrouvée à la bibliothèque de Paris, qui a été écrite par Lully avec un texte de Molière sur l'air à boire de Sganarelle. J'ai retrouvé la musique, donc ça c'est la première chose. Et on a rajouté, ça c'est de mon fait, rajouté un air de cour, écrit par Lully pour la musique et écrit sur un poème de Molière. Donc c'est il y a un moment donné, un très beau moment entre deux actes où il y a les deux jeunes premiers qui chantent. Et ce sont des acteurs qui chantent, comme à l'époque. Les acteurs savaient chanter et danser. Et le troisième passage musical, enfin, il y en a d'autres, mais les gros, à la fin, il y a une musique qui s'appelle une barbacola, qui est de Lully, mais à ses débuts, encore italien. Qui est une musique qui était souvent chantée pour des mariages, pour des fêtes. Donc, et ça correspond tout à fait parce que ça parle d'un médecin. Voilà.
Peut-on résumer le message que Molière voulait transmettre par cette pièce au public de son temps? Est-ce que ce message est encore actuel?
Là, il y a plusieurs messages, mais le message sur l'aspect du docteur qui se cache, enfin qui n'est pas docteur, il fait croire qu'il est docteur, ça peut être d'actualité. Enfin, c'est, ça, c'est non. Cette pièce-là, c'est pour moi un pur divertissement. C'est-à-dire que le sens profond de la pièce, il est pour divertir. Je pense même à l'époque. Bien sûr, à l'époque, ça critiquait le médecin, surtout Molière dans sa vie, il en a souffert. Il a vu des choses assez horribles. Et à l'époque, c'était assez horrible. La médecine était assez cruelle, oui, et surtout complètement sous l'emprise de l'Église. Donc, elle pouvait pas faire grand-chose. Quand on était malade, on saignait. Hein, donc, on enlevait du sens, ce qui était pas tout à fait logique. Et bon, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais l'intérêt, c'est surtout pour du pur divertissement, c'est-à-dire qu'il y a des situations farcesques, le mari qui veut tromper sa femme, ça, il y a ça, et c'est très très fort. Bon, ça, c'est tout le monde connaît, enfin, de près ou de loin, la situation d'être cocu ou de cocufier. Ça, c'est aussi dans la pièce, une histoire d'amour très 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 belle entre deux jeunes premiers et le père qui ne veut pas être intéressé par l'argent. Il y a le côté avarice. Sganarelle, il a toutes les tares. Il a toutes les tares de l'être humain. Donc ça, on peut s'y retrouver. Le personnage de Sganarelle, qui est quand même la création de Molière en tant que personnage. C'est lui qui a créé Sganarelle et on l'a joué pendant des siècles après. Comme Poisson a créé Crispin, etc. Il est, dans cette pièce, il a toutes les tares. Parce que dans d'autres pièces, Sganarelle est différent. Là, il est ivrogne. Il bat sa femme. Au début, ça commence comme ça. Il engueule sa femme. C'est très fort. Ça, mais c'est que des scènes comme ça. Il bat sa femme cruellement avec un bâton. Il l'injurie. Il boit. Il lui dit que ses enfants, il a qu'à s'en occuper. Il en a rien à faire, etc., etc. Jusqu'à que elle, battue, sa femme se venge. Et pour se venger, elle invente le stratagème du fait que vous cherchez un docteur. Il y a des gens qui cherchent un docteur pour guérir une riche bourgeoise qui est apparemment muette. Et il tombe sur cette Martine, la femme de Sganarelle. Il dit, non, vous avez pas vu quelqu'un? J'ai une idée. Elle a une idée. Elle va se venger. Donc elle dit, oui, ce monsieur qui s'appelle Sganarelle est un grand docteur, mais il est un peu fou, il a un peu une lubie. Et il dit, généralement, il dit qu'il est pas docteur, mais il faut pas le croire. Et si vraiment il insiste, il ne veut pas venir avec vous, il dit qu'il n'est pas docteur, vous le battez, il va dire oui. Et en effet, il le retrouve, il le bat, il dit oui. Voilà, et ça commence comme ça. Donc elle se venge jusqu'à la fin où vous verrez le dénouement. Donc c'est vraiment un divertissement, des coups de bâton, donc en baroque en plus, c'est très chorégraphié, c'est très dansé. Un théâtre baroque est très dansé, c'est des peintures vivantes tout le temps, mais vivantes, hein, pas dans un musée. Voilà. Alors que là, en septembre, je monte Les Femmes Savantes. Là, il y a un sujet que je vais, évidemment, qui est très, très, deux sujets très actuels sur la mode, sur le côté de la mode, être vrai ou pas, être sincère ou être montré mais ne pas être, quoi. Hein? Voilà.
C'était notre entretien avec Jean-Denis Monnery. Cette émission vous a été proposée par Václav Richter. Merci à Irena Viernochova, réalisation technique, et à Aleš Pezl, prise de son.
Le tchèque du bout de la langue. Guillaume Narguet.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem milovníkům češtiny Radia Praha.
Après avoir découvert, il y a deux semaines de cela, un nouveau mot inventé par les Tchèques, le mot
Spartakiada.
Spartakiada, nous allons pour cette fois continuer de nous intéresser au sport et plus précisément aux appellations tchèques de certaines disciplines. Un sujet forcément d'actualité, alors que se déroulent actuellement les Jeux Olympiques d'été de Pékin. Même s'il ne constitue assurément pas une discipline majeure aux Jeux Olympiques, le football n'en reste pas moins le sport le plus populaire et le plus pratiqué dans le monde. Il en est de même aussi en République tchèque. Mot d'origine anglaise, football, signifie littéralement balle au pied. En tchèque, il existe pourtant deux termes pour désigner le jeu, le premier d'entre eux.
Football.
Transcription phonétique est aujourd'hui le plus courant et le plus répandu. Mais le football peut également se dire
kopana,
qui tire alors son origine du verbe
kopat,
qui signifie à la fois donner des coups de pied, frapper des pieds, botter, et ce que ce soit un ballon ou autre chose, par exemple le derrière de quelqu'un. Si l'on s'amusait à traduire littéralement, en français, le mot
« kopana »
signifierait donc quelque chose comme « jeu de coups de pied ». Notons aussi qu'un mot bien précis existe dans la langue tchèque pour les chaussures de football. Il s'agit du mot
« kopačky »
dont la racine provient comme pour
« kopana »
du verbe
« kopat ».
Les
« kopačky »
sont donc des chaussures à crampons servant exclusivement à botter le ballon, à pratiquer ce fameux jeu de coups de pied
« kopana ».
Mais
« kopana »
n'est pas le seul mot spécifiquement tchèque servant à désigner un sport collectif. Il en va de même, en effet, pour deux autres disciplines olympiques, le basketball et le handball. Mot lui aussi d'origine anglophone et plus précisément américaine, le basketball veut dire « balle au panier ». La langue tchèque dans laquelle on retrouve là aussi la transcription phonétique
« basketball »
a, elle, inventé le mot
« košíková »,
dont la racine provient cependant là aussi du mot
« koš »
« panier ». Quant au handball, qui est un mot d'origine allemande et signifie « balle à la main », sa transcription phonétique tchèque nous donne
« handball »,
tandis que le mot tchèque, servant d'équivalent, devient lui
« házená »
du verbe
« házet »,
qui signifie « lancer, jeter ». Sport analogue au football, mais se jouant uniquement avec les mains, le handball a en effet pour but du jeu de lancer, jeter le ballon dans le but adverse. En revanche, remarquons quand même qu'il n'existe aucun mot typiquement tchèque pour l'autre sport de ballon, le volleyball, qui s'appelle tout simplement
« volleyball ».
Un des sports les plus attendus et les plus suivis par le public lors des Jeux Olympiques est l'athlétisme. Là non plus rien de spécial à mentionner puisque athlétisme se dit
athlética.
Par contre, il est intéressant de s'intéresser à certaines disciplines et notamment au décathlon. On le sait, le décathlon est un concours long de 2 jours au cours duquel des athlètes se mesurent dans 10 épreuves différentes. On retrouve d'ailleurs cette notion de 10 épreuves dans la composition même du mot. En français, le mot tire son origine de 2 éléments, du préfixe
déca,
qui provient du grec ancien et signifie 10, et du suffixe
athlon,
également du grec ancien
athlos,
qui signifie compétition. En tchèque, on retrouve également tout à fait clairement cette idée de 10 épreuves, puisque le décathlon se dit
deseti boj. Deset
est donc l'équivalent de 10, tandis que
boj
provient du verbe
bojovat,
soit batailler, combattre, ou plutôt lutter, pour rester dans une terminologie plus sportive. Et il en est de même pour l'heptathlon, compétition de 7 épreuves d'athlétisme disputée par les femmes, et qui se dit
sedmi boj,
en tchèque
sedm,
signifiant 7. Quant au pentathlon moderne, épreuve constituée de 5 disciplines que sont l'escrime, le tir au pistolet, la natation, l'équitation et le cross-country, on parle là aussi de
moderni pietiboj,
soit littéralement quelque chose comme 5 luttes. En revanche, même s'il s'agit là des Jeux Olympiques d'hiver et non plus d'été, il est intéressant de constater que les Tchèques n'ont pas eu le besoin de trouver un équivalent pour une discipline comme le biathlon, qui combine, comme son préfixe bi l'indique, 2 disciplines, à savoir le ski de fond et le tir à la carabine. En effet, les Tchèques ne disent pas
dvojboj,
ce qui semblerait le plus logique, mais bien
biathlon,
comme ailleurs. Mais allez donc savoir pourquoi il en est ainsi. Et c'est ainsi que se referme ce tchèque du bout de la langue, consacré donc aux appellations tchèques de certains sports olympiques. En attendant de vous retrouver dès la semaine prochaine pour traiter d'un tout autre sujet, portez-vous du mieux possible.
Mějte se co nejlíp.
Portez le soleil en vous.
Slunce v duši.
Salut et à bientôt.
Zatím ahoj.
Courrier des auditeurs. Anna Kubišta.
Bonjour à toutes et à tous, nous revoilà ensemble pour une des rubriques favorites des auditeurs, celle du courrier de la semaine. Et tout de suite, je commence par notre fidèle auditeur Michel Minouflet, qui, cela tombe bien, réagit à la dernière rubrique que j'ai présentée. Alors continuons le dialogue. Dans sa lettre, la 101e, précisons-le, il nous dit notamment.
Le mois de juillet a été consacré au Tour de France et les amateurs de sport peuvent en août se passionner pour les Jeux Olympiques. Votre pays s'est distingué très rapidement et une Tchèque a déjà remporté une médaille d'or. Kateřina Emons est vraiment une championne et fait honneur à la République tchèque. Nous autres Français, comme vous le savez, nous avons glané quelques médailles d'argent, mais pas encore de médaille d'or et Laure Manodou n'a pas pu cette fois briller dans sa discipline comme on aurait pu s'y attendre. Mais il ne faut pas qu'elle se décourage surtout. J'ai écouté de très intéressantes émissions culturelles signées Anna Kubishta ainsi que d'autres très belles émissions présentées et réalisées par Alena Yarka, Alexis Guillaume et Václav. Je vous adresse à tous mes félicitations. Je vous propose dans cette 101e lettre la question suivante. Lorsque je vous écrirai ma 102e lettre, nous serons presque en automne. J'aimerais demander à l'animateur ou l'animatrice de service de me dire quelle est la saison qu'elle ou qu'il préfère et pourquoi. Merci beaucoup par avance pour votre réponse.
Je suis ravie de pouvoir répondre à votre question. Pour tout vous dire, j'ai une grande tendresse pour l'automne, ma saison de naissance, d'autant qu'à Prague, il est magnifique. Il y a toujours une période, en octobre notamment, où les arbres de la ville explosent de couleurs, orange, rouge, or, vert. L'été indien dans toute sa splendeur. Mais si vous me demandez de choisir, eh bien ce sera quand même l'été. Le soleil, la chaleur, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur pour se sentir bien au quotidien. En tout cas, moi ça me donne toujours de l'énergie. Et vous, monsieur Minouflet, quelle est votre saison préférée ? Et Michel Minouflet évoque les Jeux Olympiques, tout comme un autre auditeur, Roger Roussel, qui nous écrit de loin du Canada. Ça fait plaisir d'avoir aussi des auditeurs outre-Atlantique. Il nous écrit.
Je suis heureux de vous envoyer cette lettre avec quelques rapports de réception. Merci de vérifier mes rapports par vos superbes cartes KSL. Je vous écoute souvent et j'adore vos émissions. Au début juillet 2008, j'ai fait un merveilleux voyage en Europe. En effet, j'ai assisté au mariage de ma nièce en Suisse. Nous avons passé plusieurs journées mémorables dans ce très beau pays. Cependant, nous n'avons pas eu la chance de visiter les pays limitrophes. Toutefois, pour ma part, je prévois de revisiter l'Europe et bien entendu, votre pays sera sur la liste. L'Europe est un très beau continent à découvrir avec toutes les beautés qui la composent. J'aimerais savoir combien d'athlètes tchèques participeront aux Jeux Olympiques en Chine. Quelles sont les chances de médailles pour votre pays et dans quelle discipline ?
Eh bien, Roger Roussel, 134 athlètes tchèques prennent part à ces 29e Jeux Olympiques d'été dans 19 disciplines. Leur objectif, faire pareil, voire mieux qu'à Athènes il y a 4 ans. En 2004, ils avaient récolté 8 médailles, dont une d'or. Pour l'heure, comme le signalait Michel Minouflet, Kateřina Emons s'est distinguée en remportant la toute première médaille d'or en tir, dame, suivie par son compatriote David Kostelet, qui, vainqueur en tir de l'épreuve de trappe, lui aussi récompensé par de l'or. 2 médailles d'or, donc, pour l'instant, à l'heure où nous enregistrons cette émission. Et la jeune sportive a remporté encore une médaille d'argent dans l'épreuve de tir à la carabine 3 positions ce jeudi. Mais si vous voulez en savoir plus sur le déroulement des Jeux Olympiques, n'oubliez pas de suivre sur notre site internet www.radio.cz et aussi sur les ondes. Nos flash infos vous informeront des autres épreuves. Merci encore à Jean-François Meillard sur Moselle pour ses rapports d'écoute, mais aussi à Christian Peters de Belgique pour le sien. Et nous avons eu la chance de recevoir plein de sympathiques cartes de vacances qui nous font suivre pas à pas le périple de vacances des auditeurs. Jacques-Augustin de Rosny-sous-Bois était à Marrakech qu'il découvre
Pour la première fois avec émerveillement, néanmoins, c'est sous un soleil de plomb, à une température supérieure à 30 degrés, qu'il convient de résister à la forte chaleur conséquente. Heureusement, la place Jama El Fna vaut son pesant d'or le soir, la nuit, dirais-je. Aussi, je ne vous oublie pas, croyez-le bien, et adresse à tous les membres du service français de Radio Prague mon meilleur souvenir du Maroc.
Merci bien, Jacques-Augustin. Si cela peut vous consoler, ici aussi à Prague, il a fait des chaleurs caniculaires. Moi, j'avoue que j'aime bien ça, mais comme je le disais à Michel Minouflet, je suis une inconditionnelle de l'été. Mais je comprends que cela puisse être difficile à supporter pour certains. Et la chaleur au Maroc et en Europe centrale doit être bien différente.
Když půjdeš po cestě, kde růže vadnou, kde rostou stromy bez listí.
C'est la fin du courrier des auditeurs. Continuez à nous envoyer vos commentaires par voie postale ou par mail. À bientôt, à Reuil.
To nikdo nečistí, jen starý rozbitej náhrobní kámen řekne ti, kdo nemohl už dát. Tak se pni ruce svý a zašeptej ať si tulák nebo král. Dřív děvče chodilo s kyticí růží rozdávat lidem štěstí a svůj smích. Oči jí maloval sám Bůh černou tuží. Pod jejím krokem hned tál sníh.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.